Donc le texte qui nous est proposé aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, qui est l'évangile que nous suivrons pendant les mois qui viennent, au chapitre 3, les versets 13 à 17, il s'agit du baptême de Jésus. À ce moment-là, Jésus vient de la Galilée au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi ce que Dieu demande. » Et Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent. Ils s'ouvrirent pour lui, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Nous venons de traverser le temps de Noël et puis celui de l'Épiphanie dimanche dernier. C'est un temps assez lumineux. C'est le plus fort de l'obscurité, nous arrangeons pour y voir clair, ou chercher à y voir clair au fond de cette obscurité, et en cherchant bien, une lumière particulière, lui, dans cette obscurité. Ce temps est ponctué de récits symboliques, des signes qui révèlent quelque chose de qui est ce nouveau-né qui nous a rejoint, un enfant fragile. C'est sa première apparence, un roi paradoxal. C'est moins évident, même si les cadeaux qu'on lui offre ne sont pas les cadeaux qu'on offre à un enfant, mais ce sont des cadeaux de roi. Une présence de Dieu là où on ne l'attend pas, en tout cas, ça c'est certain. Et voici que ce dimanche, le récit change de registre. Nous quittons les récits de l'enfance pour entrer dans la vie publique de Jésus. Il a déjà grandi, il est là. Nous quittons Bethléem pour le Jourdain. Nous quittons les anges, les mages, les personnages extraordinaires et venus d'ailleurs pour un homme austère, robe de toile, ceinture de corde. Sauterelles et miel sauvage au menu, et pour toute une foule en quête de conversion. Elle est venue parce qu'elle est d'accord pour changer. Nous avons vraiment changé de registre aujourd'hui. C'est souvent comme ça que commence le temps de l'Église, pas dans l'évidence du merveilleux comme les textes qui précèdent, mais plutôt dans l'épaisseur de la vie humaine, dans le mélange de quêtes spirituelles, parce que tous ces gens qui descendent auprès de Jean-Baptiste ne cherchent pas du tout la même chose. Personne n'a pris la peine de les interroger. Ça aurait été certainement très instructif, mais ils auraient tous eu quelque chose de différent à apporter ou à dire, une autre question. Le baptême de Jésus n'est pas seulement un épisode de sa biographie. On pourrait dire que ça tient peu de lignes. 4 ou 5 versets au début de l'évangile, il n'a encore rien fait, c'est vraiment anecdotique. Au fond, c'est un seuil, c'est un passage, une entrée en relation. C'est la première fois que, parce qu'il est prêt, il vient rencontrer ceux à qui il a quelque chose à dire. Le texte de Matthieu nous dit « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui ». Rien n'obligeait Jésus à faire ce qu'il est en train de faire. Rien ne l'obligeait à faire ce déplacement. Et rien ne nous oblige à croire qu'ils se sont rencontrés par hasard à l'orée d'un bois en se tombant dessus. Par surprise comme ça, comment m'avez-vous ici? Je ne m'y attendais pas, etc. Mais moi non plus. Rien ne contraignait cette rencontre. Elle a donc été souhaité au moins par l'un d'entre eux. Jean baptisait pour la repentance, c'était le cœur de sa prédication, pour la conversion, pour changer de vie, pour prendre sa vie en main soi-même et la réorienter soi-même. Et Jésus, tel que Matthieu nous le présente, n'a a priori pas besoin de baptême de repentance. Ou alors, entre la petite enfance et cet âge adulte, il a fait tout un tas de choses dont on ne nous a pas parlé. Mais rien ne nous le dit non plus. C'est ce qui trouble Jean d'ailleurs. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, c'est toi qui viens à moi. Cette scène est déjà assez parlante, assez profonde. Jésus ne commence pas son ministère en se plaçant au-dessus des autres. Il y aura des moments comme ça, où il sera à la fois au-dessus ou à l'écart. Ces foules qu'il presse jusqu'au rivage, à tel point qu'il est obligé de monter dans une barque pour leur parler, de loin mais de près quand même. Cette dissymétrie de dispositif, j'ai quelque chose à vous dire, écoutez, je connais vos besoins, etc. Verticalement, c'est très dissymétrique ce qui va arriver par la suite. Mais pas ici, pas chez Matthieu. Il commence son ministère en se plaçant au milieu des autres, ne se distingue pas de la foule, mais s'y mêle. Il ne revendique pas un statut particulier, il accepte de passer par le même geste que tous les autres. Un geste qui a déjà été accompli par d'autres avant lui, et puis les jours qui suivent, et puis bien longtemps après. Il descend dans le Jourdain comme les autres, il entre dans l'eau trouble, peut-être celle de l'humanité. Pour une église comme la nôtre, ce n'est pas un détail sans importance, il est même essentiel. Il nous rappelle qu'une démarche de recherche, de foi, de quête, quelle qu'elle soit, ne commence pas par une supériorité morale ou spirituelle ou quelle qu'elle soit. Elle commence par une solidarité. Quand on doit s'adresser à quelqu'un, il faut s'approcher de lui ou d'elle, prendre le temps de le connaître et faire exactement ce qu'il fait. S'identifier à lui ou à eux. Jésus n'est pas venu d'abord pour enseigner, corriger, juger, redresser, guérir, etc. Il le fera plus tard. Mais ce jour-là, il vient partager. Il vient rejoindre. Il se tient là où les humains se tiennent, là où se dit leur besoin de devenir quelqu'un d'autre que ce qu'ils sont et qui ne les satisfait pas. C'est à ce moment-là qu'il les rejoint. Je veux changer, je veux être ce que je suis vraiment sans y arriver. Et c'est à ce moment-là, dans ce type de préoccupation-là, que Jésus les rejoint. Leurs espoirs confus, leurs attentes, leurs fautes, les choses ratées, c'est à ce moment-là qu'il les rejoint. Jean résiste un peu, pas longtemps, mais un peu quand même. Sa résistance est bien compréhensible parce qu'elle reflète une tentation que nous pouvons avoir en permanente, celle de vouloir mettre chacun à sa place, de hiérarchiser, de sacraliser, de certains disqualifier d'autres, enfin de faire ces classements qui ont leur raison d'être par moment, mais pas ce jour-là. Et Jean reconnaît en Jésus quelqu'un de plus grand que lui. Il voudrait inverser les rôles, et Jésus répond « Laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. » Hop, remise à l'horizontale, ce sera pour plus tard. La supériorité ou la dissymétrie du dispositif, ce sera dans les jours qui suivent, mais pas pour le moment. Accomplir tout ce qui est juste, vous savez, ça a été interprété diversement de deux manières, principalement morale et juridique. Il faut faire ce qui est écrit dans le règlement. C'est écrit, donc on fait comme ça. Voilà, donc ça, c'est la réponse réglementaire. Et puis il y a la réponse morale aussi, il faut faire ce qui est bien. Parfois c'est la même chose, hein. Ce qui est bien c'est ce qui est écrit dans le règlement, ça peut se confondre aussi. C'est probablement ni l'un ni l'autre qui est dit ici. Les mots utilisés dans ce passage en grec évoquent plutôt la justesse relationnelle, c'est-à-dire être à la bonne place. C'est comme ça qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Il n'est pas question de règlement, pas question de morale supérieure ou pas. Il est question d'ajustement. Je dois me mettre en face des bonnes personnes et de la bonne manière. Laisse faire maintenant. Cette manière d'être passe par un abaissement volontaire, momentané sans doute, mais volontaire, par l'entrée dans une condition humaine qui est partagée. Ça n'a l'air de rien parce que justement, rien ne dépasse. Et nous aimons bien les choses qui se hiérarchisent, les têtes qui dépassent, parce qu'elles se remarquent. Ici, personne, aucune tête ne sort. Il y a peut-être quelque chose d'important à voir dans cet alignement momentané, puisque notre foi à nous, nous le croyons, n'est pas une fuite hors du monde, mais un engagement à y être pleinement présent, en commençant par le bas. Une église fidèle à l'Évangile n'est pas une église qui se croit au-dessus. Ça a déjà été essayé, bien sûr, avec les résultats qu'on connaît. Mais il faut plutôt ici, si l'on suit ce modèle, et c'en est un peut-être, être une église qui accepte de se tenir au milieu et pas au-dessus. Parfois même en position de vulnérabilité. Mais ça vient tout seul. Pas besoin de le chercher. Le récit se poursuit. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Geste simple, presque banal, mais Matthieu nous dit alors, à ce moment-là, ces deux choses sont simultanées, c'est très curieux, il nous dit que les cieux s'ouvrirent. Ce qui était fermé, apparemment, s'ouvre à ce moment-là. Ce qui semblait séparé par une cloison se met en relation. Ce n'est pas Jésus qui force l'ouverture du ciel. C'est Dieu qui prend l'initiative de la rencontre au moment où il sort de l'eau. Dans notre perspective, nous pouvons entendre, je crois, ce signe, pas tellement comme une rupture spectaculaire des lois naturelles, ça ne nous avancerait pas à grand-chose, mais comme une parole symbolique forte qui, elle, est accessible à tout moment. Et c'est beaucoup plus utile et beaucoup plus fort pour nous. Au cœur de l'expérience humaine, au cœur même d'un geste ordinaire, il y a quelque chose qui est de l'ordre de Dieu et qui s'ouvre comme une porte qui était fermée au préalable et qui s'ouvre à ce moment-là, dans certains gestes, dans certaines paroles ou un certain type de présence. Ce qui était cloisonné s'ouvre à nouveau. Pas besoin d'attendre des événements extraordinaires pour que le ciel s'ouvre, il suffit de sortir de l'eau. Ou il suffit de faire quelque chose de très simple. Ou de dire quelque chose de tout simple, pertinent mais simple. Le ciel s'ouvre là où une vie décide de s'accorder à ce que Dieu attend de nous, à la confiance, à la justice, à l'amour. Et puis cet esprit descend. Il a cette manifestation devenue traditionnelle, vous savez, descendre comme une colombe. Ce n'est pas n'importe quel volatile, la colombe. Ce n'est pas un condor. Ce n'est pas un aigle impérial non plus. C'est devenu cet oiseau fragile, tout blanc, le symbole de la paix retrouvée, des conversations qui reprennent, des choses cassées qu'on a réparées, qui à nouveau fonctionnent. C'est la colombe aussi de l'arche de Noé, de ce monde fracassé par sa propre méchanceté, dont quelque chose émerge quand même. Et quand il est prêt à repartir, c'est elle qui signale qu'on peut se poser quelque part. Pour une église qui cherche à penser sa place aujourd'hui, cette image est précieuse. Elle nous invite peut-être à renoncer à nos logiques de domination religieuse. Alors vous me direz, avec la faiblesse de nos moyens, on n'est pas sur le point d'être dominant. Mais il y a d'autres façons de dominer, par le discours, par la certitude assénée sur la tête des autres. On peut être très pauvre et très casse-pied et très surplombant. Ce n'est pas forcément une question de puissance financière ou d'aura ou d'audience. Ça peut être aussi la brutalité d'un discours qui n'a pas compris qui est en face de nous. Elle nous invite à renoncer aux logiques de domination pour privilégier des formes de présence plus discrètes, plus respectueuses, plus ouvertes au dialogue. Et puis, ce n'est pas fini. Ça pourrait être pas mal de se terminer sur la colombe, mais il y a autre chose qui arrive. C'est une parole qui descend aussi et qui dit: « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Il se dit beaucoup de choses en peu de mots dans ce baptême. « C'est en lui que j'ai mis toute mon affection. » Cette parole ne s'adresse pas d'abord à Jésus, mais à ceux qui regardent et à ceux qui écoutent. Il ne parle pas à celui qui sort de l'eau. Il parle à ceux qui sont dans la file d'attente et qui attendent aussi, eux aussi, de rentrer dans l'eau ou qui viennent d'en sortir. Voilà ce qui se passe quand vous entrez et quand vous sortez de l'eau. C'est une déclaration d'identité. Voilà comment je vous nomme, voilà comment je vous reconnais. Pas une identité fondée sur une performance. Il n'y a pas de performance à sortir de l'eau. Il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de réussite, pas de défi extrême à relever. Pas sur une obéissance parfaite non plus, mais une identité fondée sur quelque chose qui nous est déclaré comme ça, qui est posé une fois pour toutes et qui ne bougera plus. Celui-ci est mon bien-aimé. Chaque fois que nous sommes sortis de l'eau, de nos baptêmes, ou chaque fois que, en agissant ou en parlant comme nous l'avons fait, le ciel s'est ouvert, c'est ça qu'on nous a dit. Et les personnes que nous avions en face de nous ou avec nous ont entendu aussi cette phrase-là. Vous êtes mes bien-aimés. Et tout cela est dit avant que Jésus ait fait la moindre chose, dit la moindre chose importante. Son ministère n'a pas commencé. Il y a encore cet épisode du désert qui va suivre. Et ensuite, son ministère commencera. Mais avant même que Jésus ait dit quoi que ce soit, guéri, enseigné, avant tout acte public, il est reconnu comme bien-aimé. C'est pas rien d'entendre une chose comme celle-là. Ça change profondément, je crois, notre manière de comprendre la foi. On parlait de quête, de recherche, et ça nous est bien naturel. C'est probablement ce que viennent faire en partie, et à leur manière, tous ceux qui sont dans la file d'attente et qui vont descendre dans l'eau. Mais la réponse de Jésus est, c'est bien que vous montiez, que vous sortiez de cette eau pour venir chercher quelque chose. Le principal vous est dit d'en haut et vous tombe dessus comme ça et ne vous sera jamais repris. Nous ne sommes pas aimés parce que nous croyons bien, parce que nous agissons correctement. C'est un préalable. C'est parce que nous sommes aimés que nous faisons ce que nous faisons. C'est parce que ce n'est pas parce que nous remplissons nos devoirs religieux. Nous sommes aimés avant, c'est ce que dit ce texte. Et c'est cet amour premier, toujours préalable, qui rend possible une vie transformée. Dans la succession des événements du récit, on entre d'abord dans l'eau et puis ensuite on entend quelque chose. Mais la réponse, non pas de Jésus, mais de cette intervention de Dieu à la suite du baptême, invite à lire à l'envers. Je vous accepte tel que vous êtes pour commencer. Ensuite, en entendant cela, vous pourrez bien, je le souhaite, décider de changer de vie, descendre dans l'eau et en remonter. À ce moment-là, il sera toujours moment de vous répéter ce que je pense de vous. Mais sachez que c'est un préalable. Vous êtes aimé avant. Le temps de l'Église qui commence après l'Épiphanie est justement ce temps où cette parole doit continuer de résonner. C'est le début de l'année, le vrai début de cette année après une parenthèse symbolique forte où la lumière réapparaît au milieu du noir. Et puis ensuite, notre vie, notre année reprend. L'Église n'est pas d'abord une institution qui distribue des normes, des certitudes ou des croyances. C'est plutôt un espace où peut être entendue encore et encore cette parole fondamentale « Tu es bien-aimé ». Ça précède tout, toute prise de parole, toute guérison, tout miracle, tout enseignement. Dans notre vie à nous comme dans celle de Jésus, son ministère n'a pas commencé, il est déjà un bien-aimé, nous aussi. Alors évidemment, même en l'absence de baptême ce dimanche, croyez bien que je le regrette, ce texte nous renvoie à ce que signifie en profondeur être baptisé. Le baptême n'est pas un rite anodin, pas un rite magique non plus, pas un simple marqueur d'appartenance non plus, il est sans doute un peu tout cela, mais il est beaucoup plus, il est le signe d'une vocation ou d'un appel, ou plutôt d'une parole entendue, qui ne nous convoque pas nécessairement pour faire quelque chose, mais qui capte notre attention pour nous dire « tu es bien-aimé ». Sache cela. Après, le reste pourra suivre. C'est le signe d'une ouverture, le baptême. Ouverture du ciel, ouverture de la vie humaine à une dimension de sens, de confiance et de relation. Pour toutes celles, tous ceux qui ont été baptisés Ce récit est une invitation à se souvenir, évidemment, pas avec nostalgie ou tristesse, je l'espère, mais avec responsabilité, avec reconnaissance aussi, Que faisons-nous de cette identité reçue ? Tu es mon fils ou ma fille, bien-aimé, avant toute autre chose. Comment vivons-nous cette filiation symbolique ? Est-ce que c'est une source de liberté pour nous ? Ou un prétexte à repli, parce que ça pourrait être un capital aussi. Je suis bien-aimé quand même. C'est bien, non ? Être bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde. Un privilège, donc. Ben non, pas du tout. Tout le monde est bien-aimé, mais tout le monde ne l'a pas entendu. Ce n'est pas la même chose. Pour celles et ceux qui ne sont pas baptisés, il n'est jamais trop tard. Ce texte rappelle que la bénédiction de Dieu ne se limite pas à ce que nous en faisons. C'est un rappel plutôt que la bénédiction de Dieu est toujours un préalable. Elle se dit là où, baptême ou pas. Notre vie, par moment au moins, s'ouvre à l'esprit. Là où un être humain accepte d'entrer dans une relation de confiance avec quelque chose ou quelqu'un qui le dépasse. Et chaque fois que nous faisons cela, le ciel s'ouvre et nous sommes bien aimés. Ce récit de baptême, du baptême de Jésus nous prépare à la suite. Et c'est moins drôle par la suite, c'est moins frais. Après l'eau rafraîchissante physiquement, mais peut-être spirituellement aussi, de l'eau du Jourdain, il y a le désert tout sec qui attend Jésus. Nous ne sommes décidément à l'abri de rien. Jésus va être conduit au désert, mais pas sans avoir été, au début, avant cette épreuve, reconnu comme bien-aimé, même si les épreuves n'épargnent pas les bien-aimés. Mais ça donne une base solide pour les traverser, ces déserts. Imaginez que vous entrez dans le désert en sachant que personne ne viendra vous y chercher et que vous n'avez aucune chance d'en sortir par vous-même. Ce n'est pas dans ce type de désert que Jésus entrera après. C'est en tant que bien-aimé qui sait qu'il traversera ce désert comme tous les autres. Le temps de l'Église, qui commence aussi un petit peu avec ce désert qui arrive, n'est pas un temps de facilité, mais un temps de cheminement assez exigeant, assez sec parfois, mais toujours habité par cette parole fondatrice. C'est ce qu'il nous faut nous rappeler en sortant de cette période de Noël, très lumineuse, très belle, très symbolique, très riche, pour retomber dans le désert ordinaire du quotidien. Au sortir de l'épiphanie, le baptême de Jésus rappelle l'essentiel. Une fois incarné, au milieu des autres, avec les autres, ceux dont on a pris la peine, dans lesquels on est allé se mêler, parce qu'il faut les connaître. Une fois incarné, modeste, sans doute, mais toujours présente, une identité fondée sur un amour reçu, pas sur une performance acquise après avoir gravi les échelons de je ne sais quelle échelle spirituelle, ce qu'on propose dans beaucoup d'endroits d'ailleurs. Une Église appelée à être un signe de présence discrète mais fidèle et constante de Dieu au cœur du monde. Ça tient en peu de choses, mais tout est là déjà avant même que Jésus ait dit ou fait quoi que ce soit. Eh bien, il faut que cette parole continue à nous accompagner. La vérité là-dedans, et c'est une des toutes dernières phrases, c'est « celui-ci est mon fils ou ma fille, bien-aimé », et que nous osions l'entendre pour le Christ aussi, qui commence son ministère, mais aussi mystérieusement pour nous-mêmes et pour chaque être humain que nous rencontrons. Car nous sommes tous des bien-aimés, mais tout le monde ne le sait pas. Amen.